Regard.
L'émission qui multiplie les points de vue.
En partenariat avec la scène nationale de Bourg-en-Bresse.
À écouter sur Radio B.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Regard en partenariat avec la scène nationale Théâtre de Bourg-en-Bresse. Ou comment regarder la création artistique au travers de thèmes de société ou regarder des thèmes de société au travers de créations artistiques. Avec moi en studio, Rémi.
Salut.
Et on salue Pascal qui a préparé ce magazine avec nous mais qui n'est pas là en studio. Et pour représenter la scène nationale de Bourg, Julie Duclos.
Bonjour.
Vous écoutez Radio B.
Dans cette émission, on revient sur la semaine Agora organisée par la scène nationale Théâtre de Bourg-en-Bresse mi-novembre. Rémi, tu as envie de rebondir?
Oui, en effet, c'était il y a quelques semaines déjà et c'était bien chargé en réflexion. Alors toujours très attaché au mot, moi je trouve que ce terme de Agora est quand même plutôt bien pensé, car on a vu la dernière fois que la notion de citoyen est liée à l'Antiquité. Eh bien ce citoyen, pour évoluer, il a besoin d'un lieu de réflexion, un lieu de contemplation, un lieu de débat. Et ce lieu, c'était justement le Théâtre de Bourg-en-Bresse.
Est-ce qu'on a déjà un petit bilan du côté de la scène nationale, Julie?
Mais écoutez, du côté de la scène nationale, on est plutôt ravis puisque on a eu le public était au rendez-vous. Du coup, chacune des propositions s'est vue appréciée par des gens. Les propositions étaient multiples et variées. On a tenté de faire un panel de restitution d'ateliers, de spectacles bien sûr et d'éléments participatifs pour les publics. C'est une première, c'est la première fois qu'on organise autant d'événements aussi condensés et au total, on a plus de 2400 personnes qui sont mobilisées. Il y avait 3 spectacles payants, tout le reste, c'était des propositions gratuites également. Donc, on est vraiment contents et on a eu une topologie de public différente de celle de d'habitude, puisque bien sûr, on a eu nos publics fidèles qui sont venus. Certains sont venus pour certaines compagnies, je pense par exemple au spectacle de la compagnie Cassandre qui est déjà venue dans nos murs et qui donnait envie. Mais sur plein d'autres actions, vu qu'on était en partenariat, on a fait venir d'autres publics, d'autres gens ont poussé les portes du théâtre et on a été vraiment ravis d'accueillir tout le monde sur cette semaine-là, surtout sur avec un bal folk pour terminer et clore en musique et en chanson et en danse, où tout le monde est venu, les gens étaient vraiment contents en tout cas, et on a pu avoir des moments d'échange, chose qui est de plus en plus rare à l'heure actuelle, et les échanges, que ce soit avec les artistes ou avec les intervenants des différentes actions ou les participants et les publics, ont créé vraiment des dialogues et ça nous a vraiment conforté dans l'idée que le théâtre est un lieu d'échange et d'agora. On était vraiment également contents de ce terme-là, et juste pour rappeler, ces actions-là sont possibles puisqu'il y a eu un partenariat à l'échelle Europe avec la Suisse qui s'appelle Interreg. Et c'est dans ce cadre-là que tout ça est réalisable. Sinon, on ne pourrait pas le monter.
Éventuellement, ça serait quelque chose qui pourrait être reproduit dans les années futures.
Alors, on aura d'autres éléments de temps fort avec des événements proposés sur une semaine à plusieurs jours. Ça va être... c'est vraiment le marquage de chaque thématique. Pour finaliser chaque thématique, on a un temps fort qui est construit au moins sur 3 jours. Là, on avait vraiment une semaine. On était vraiment présents du mardi au dimanche. On espère pouvoir le refaire dans l'année prochaine, enfin, avec les prochaines thématiques qui seront à venir. Mais ce sera plus pour 2025-2026.
Et la semaine, elle commençait avec une rencontre spéciale autour de la liberté et des médias, hein, sous l'égide de l'artiste associée à la scène nationale, Sophia Aram. Mon côté, j'ai eu le plaisir de représenter Radio B sur scène aux côtés d'intervenantes hyper intéressantes. Donc, il y avait Laure Chauvel pour Reporters sans frontières, Oumi Diallo qui est journaliste à TV5 Monde, M6 et France Culture, et Coralina Picos, organisatrice du festival de dessin de presse, Sa Presse. Et puis aussi donc Sophia Aram qui était sur scène avec nous pour rebondir et compléter nos interventions, et le dessinateur Lacombe. Et puis on avait Fiche le Rouge qui nous écoutait et qui a écrit un slam en parallèle. Rémi, toi tu étais dans la salle, côté public, et bah, moi j'aurais bien aimé entendre ton ressenti un petit peu pour cette rencontre.
En fait, pour être franc, moi je suis toujours partagé sur ces échanges, parce qu'en fait c'est des échanges qui pourraient se prolonger longtemps de la soirée, alors autour d'un ou plusieurs verres. Mais c'est justement l'intérêt de ces tables rondes que d'avoir finalement un temps limité pour que chacun puisse, à partir des propos des intervenants, se faire finalement son propre avis et avoir son propre regard pour ne pas s'enfermer dans les interventions de chaque intervenant. Et c'est d'ailleurs ce que semblent apprécier les spectateurs qu'on a été voir à l'issue des échanges.
Quelles sont les idées fortes que vous retiendrez de cet échange sur la liberté et les médias ?
Ce que j'ai retenu, c'est la diversité et la richesse des échanges entre les intervenantes. Donc c'était bien aussi qu'il y ait une majorité de femmes, essentiellement des femmes, à part le dessinateur et le slammer, qui était très très bien aussi. Et puis, quelque chose que j'ai retenu, c'est la jeune journaliste qui dit que maintenant, il faut appeler la profession technicien de l'information. Et là, je vous avoue que, voilà, j'ai 62 ans, c'est ce qui me désole un peu, technicien de l'information.
Quand on arrive à 70 ans, il faut apprendre à se désillusionner. Et ma grande désillusion ce soir, c'est ce que je pressentais, c'est que les journalistes n'existent pas ou n'existent plus. Dans notre société, voilà, parce que des techniciens de la communication, oui, mais journalistes, non, ce n'est plus une profession.
Il faut creuser et chercher à s'informer par soi-même. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on se laisse polluer, qu'on est beaucoup influencé. C'est vrai, bien sûr, et moi aussi. Ben aujourd'hui, j'ai choisi de ne plus avoir de télévision depuis longtemps. Le confinement, je l'ai très bien vécu parce que je n'ai pas été polluée. Je n'ai pas écouté BFM, par exemple. C'est possible de se protéger et d'aller chercher l'information. Là, on a envie d'aller la chercher.
La liberté, elle se restreint quand même un petit peu, je pense.
Il y a de la liberté que dans la pluralité et dans la possibilité de donner la parole à surtout ceux qui ne l'ont jamais, qui ne sont jamais représentés.
De la transparence et pas de l'influence. Voilà, plus d'objectivité. Madame a dit que ça n'existait pas. J'ai trouvé ça très intéressant qu'elle ait dit ça. Ça m'a fait réfléchir. Je dis, ah ouais, tiens, l'objectivité. Ah ouais, c'est pas bête. Parce que bien sûr, c'est difficile d'être totalement objectif, sauf quand on parle de faits précis. Bon, il s'est passé ça, ça. Et encore, quand on, avec l'intonation qu'on y met, forcément, on est influencé. Donc voilà, moi, de la transparence, de la prise de risque. Mais je ne dis pas que c'est facile. Et moi-même, est-ce que je le ferais? Je ne sais pas. Voilà, j'avais envie de leur poser la question à la fin, donc il n'y a pas eu de question de poser. Mais qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux personnes qui voudraient se lancer dans le journalisme?
Alors, peut-être pour rebondir à ce qu'on a entendu et puis à cette dernière question, hein, j'ai l'impression que c'était quand même assez plombant de nous écouter ce soir-là. Alors, ce qu'on a évoqué, ce qu'on a dit, c'est la réalité. Hein, c'est ce qu'on explique aussi dans nos séances d'éducation aux médias. Hein, y a quand même un contexte qui fait qu'aujourd'hui, l'information devient un domaine économique comme un autre. Mais alors, tout n'est pas à jeter. Hein, faut pas se résigner. Faut continuer aussi à faire confiance aux journalistes. Hein, comme toujours, il faut savoir garder un petit peu de nuance. Donc moi, je vous invite à lire des enquêtes de journalistes qui sont récompensées par le prix Albert Londres, par exemple. Vous abonnez à des médias en ligne, à des revues trimestrielles qui n'ont pas des gros groupes derrière eux. C'est la période des fêtes. Là, offrez des abonnements à des revues alternatives pour vos petits-enfants, vos enfants. Allez écouter des podcasts sur la route en direction de chez mamie et papy, là, pour les fêtes. Posez-vous au coin du feu en lisant la dernière enquête de Mediapart. Renseignez-vous, faites du tri et gardez votre esprit critique.
Tu as raison, Élodie, mais alors, derrière cette injonction du « renseignez-vous » qu'on entend quand même assez facilement, je pense qu'en fait, on doit aller plus loin en fait, quand on parle médias autour de nous. Je pense qu'il faut citer, il faut être exhaustif, on peut dire Blast, on peut dire Le 1, on peut dire Mediapart, voire même de s'abonner à Libé pour ne pas se contenter que de l'info gratuite et d'utiliser alors les réseaux sociaux pour ne diffuser que des articles de fond percutants et avec analyse. Je pense que c'est là-dedans qu'il faut aller, il faut à chaque fois donner du concret. Et alors, ouais, l'article du Parisien qui explique que tel député arnaque son employé de maison, ouais, ça vaut le coup à lire, ça vaut le coup d'être partagé. Mais en fait, cet article, il se contente que de relater un chien, enfin, ce qu'on appelle un chien écrasé. L'intérêt, finalement, est médiocre d'un tel partage. Il faut qu'on puisse partager. Et je crois que c'est Salomé Sacquier, dans son dernier bouquin, qui dit clairement, mais faites que du partage d'informations qui apportent quelque chose, que de l'information de fond. Et comme ça, on peut déjà changer, finalement, la tonalité de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux.
Attention, avant de partager, on vérifie
oui,
l'info qu'on partage.
Oui, oui.
On évite de polluer la boucle WhatsApp familiale. C'est ce que nous disait Oumi Diallo, la journaliste d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elles en pensent, nos intervenantes, de tout ça?
Eh bien, écoute, justement, j'ai été interrogé Laure Chauvel, qui est chargée auprès de RSF, Oumi Diallo, qui est journaliste à TV5 Monde, et Sophie Aram, pour savoir si nous étions finalement libres de s'informer.
En France, oui. On est libre de s'informer parce qu'on a un paysage médiatique plutôt pluriel, plutôt pluraliste. Donc on peut accéder à une information de façon libre. Par contre, dans d'autres pays du monde, non. Quand on pense aux régimes autocratiques, aux dictatures, on se rend bien compte que c'est pas possible d'être informé. Ou en tout cas, il y a parfois des semblants, des artifices d'information, mais qui ne sont en fait que la propagande d'État et qui n'est pas une vraie information. C'est un vernis informationnel, mais c'est pas une information libre.
Alors en France, on a donc cette pluralité comme richesse et Oumi Diallo nous donne quelques clés justement pour avoir une information de qualité.
C'est-à-dire que si on veut s'informer aujourd'hui, l'information ne vient pas à toi. Il faut aller la chercher. C'est vrai que si tu es un téléspectateur, un citoyen passif qui va venir à toi, ce ne sera peut-être pas la meilleure information. En revanche, quand on cherche et qu'on veut s'informer, on a quand même aujourd'hui, je pense, une pluralité de sources, d'opinions, de médias différents, qu'on aime l'écrit, la radio, la télévision. Donc oui, mais il faut se bouger un peu.
J'ai posé cette question en apparence anodine à Sophia Aram aussi. Est-on libre de s'informer ?
Oh oui, on est très libre de s'informer. Après, c'est pas toujours simple de bien s'informer.
Mais moi, mon sentiment, c'est qu'on n'est pas empêché. Donc les obstacles, c'est la quantité, le nombre de sources auxquelles on a accès. Paradoxalement, c'est parce qu'on a beaucoup de sources d'informations que c'est difficile d'avoir l'information. Ça prend du temps de bien s'informer. Faut vérifier parfois. Faut parfois des choses très bêtes. Regarder la date. Quand on tombe sur une information, si on n'a pas la bonne date de l'article ou du reportage, on a un biais parce que à l'époque à laquelle il a été diffusé ou il a été rédigé, le contexte était différent. Le contexte compte. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses qui font que on peut avoir des biais de lecture d'une information donnée.
Alors, si nos intervenantes étaient plutôt unanimes sur la liberté de s'informer en France, le rôle des médias s'interroge aussi. Et il convient de se demander ce que nous avons à attendre finalement des médias, qui est le premier filtre entre le citoyen et l'information. Que faut-il attendre des médias en 2024 ?
Alors, les médias, pour parler des médias mainstream, de l'information en tout cas, je pense quand même que vu la prolifération des fake news, on peut quand même en attendre encore une information sourcée, vérifiée, des faits fiables. J'ose espérer. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas attendre de l'opinion. Je pense que les médias glissent de plus en plus vers du sensationnel et de l'opinion parce que ça fait des vues et parce qu'il faut survivre face à des nouveaux médias, des nouveaux formats qui émergent et qui aujourd'hui rencontrent un énorme succès, notamment auprès du jeune public. En revanche, je pense qu'il faut résister à ça.
Qu'est-ce qu'on attend des médias ? On attend une information qui soit vraiment fiable. Pour regagner de la... Enfin, il y a tellement un manque de confiance en l'information, il y a une grosse fatigue informationnelle. Et ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à débloquer de la part des médias, de la part des journalistes, mais aussi des actionnaires qui ont tendance à s'immiscer dans la ligne éditoriale, des rédacteurs en chef. Et il y a vraiment, je pense, un vrai travail à faire sur notamment des outils qui sont tout simples, mais des chartes déontologiques au sein des rédactions, pour que les journalistes soient plus... et vraiment des règles déontologiques plus précises au sein de leur rédaction, qui sachent où aller. Voilà.
Et vous, Sophia Aram, qu'attendez-vous des médias ?
J'en attends énormément. Je suis une grande consommatrice. Je n'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait des opinions. J'ai plus de problèmes quand elles sont tues, quand elles sont dissimulées ou quand on essaye de nous vendre une pseudo-neutralité à laquelle j'ai du mal à croire. Je préfère que les gens me disent d'où ils parlent pour que je puisse me faire mon avis ensuite. Avoir une information la moins tronquée, la moins partiale. Et puis des opinions diverses. Moi, j'aime bien avoir le choix dans un débat, qu'il y ait des avis tranchés, ça ne me dérange pas, et qu'on puisse dialoguer sans s'invectiver, discuter posément, ça m'importe. Mais je ne crois pas que l'outrance soit quelque chose de souhaitable.
Alors face à l'outrance et l'omniprésence de médias d'opinion qui ne s'affichent pas comme tels d'ailleurs, Oumi Diallo a bousculé certaines idées dans la salle en faisant l'hypothèse qu'il faudrait peut-être remplacer le terme de journaliste par technicien de l'information. Ça fait grincer des dents. On a demandé donc à Laure Chauvel si la notion de journalisme était amenée à disparaître.
Alors non, moi je suis persuadée que la notion en tout cas de journalisme ne disparaîtra jamais. Je pense qu'elle se métamorphose, qu'on n'a plus du tout la même définition du journalisme aujourd'hui qu'il y a même encore 10 ans. Parce que la consommation du journalisme n'est pas la même, parce que la façon de faire du journalisme n'est pas la même, mais le journalisme existera toujours, parce qu'en fait on aura toujours besoin de savoir. Et en fait le journalisme c'est la base du savoir, quand une information est fiable, qu'elle est vérifiée, qu'elle est sourcée, quand elle est recoupée, ça c'est la base du journalisme. Donc on a tendance peut-être à perdre les valeurs journalistiques, mais pas le journalisme.
Alors, parmi l'une des valeurs dans la charte de la déontologie des journalistes, justement, il y a la vérité. Et je me suis tourné alors vers Oumi Diallo, qui était en réalité la seule journaliste de la soirée. Et est-ce que le courage, c'est toujours de dire la vérité, pour paraphraser Jaurès ?
Je pense que, en tout cas, les gens qui aujourd'hui se mettent en avant, prennent des risques, le payent au prix fort, surtout concernant certains sujets chauds d'actualité. Maintenant, je ne pense pas que toute vérité soit bonne à dire. C'est un peu paradoxal pour une journaliste, mais je ne pense pas. Et en plus, les faits et la vérité, alors là, si on fait de la philosophie, c'est pas la même chose non plus.
Alors, fait et vérité, hein, ça donnerait presque une nouvelle idée de soirée-regard, non, Julie ? Ou, enfin, du moins, ça apporterait une autre perspective. Et à propos de perspective, justement, durant cette soirée, il y a Fiche le Rouge qui était présent et qui nous a proposé une autre perspective. Il a tenté un exercice assez compliqué, puisqu'il a écrit un slam sur les mots des intervenants. Slam scandé, d'ailleurs, à l'issue des échanges. Et sur Radio B, tout de suite.
Je veux pas faire des chansons qui soient siliconées. Je m'y connais pas assez en mytho déguisé. L'ambiance est trop chelou, je regarde pas la télé. Leur vision a le goût de l'eau qui est polluée. Hey. Les GAFA nous la mettent, ils ont tout calculé. Les décisions se prennent avec des calculettes. Y'a plus d'amour au fond, tout est manipulé. Les relations sont mortes avec les internets et tous leurs intérêts. Leurs applis sont débiles, tout est fait pour cliquer. Le message est stérile, plus rien à cultiver. Nos cerveaux sont liquides comme de l'argent volé. Le temps n'a plus d'emprise, ils nous l'ont surtaxé. Les valeurs ont perdu de leur éclat doré. Les amitiés se jouent à coups de vous se lever. Le ciel n'a plus d'étoiles, tout est mécanisé. Les dieux n'en pouvaient plus, ils se sont tous barrés. Partout il pleut des bombes, c'est le grand giboulet. Des corps sous les décombres, ça remplit les JT. Des familles en exode qui sont déracinées. Les portes sont fermées, elles pourront pas entrer. Les frontières se dessinent, les murs sont rehaussés. La nuance est un crime, il faut l'éradiquer. L'humanisme est une bête qu'il faut décapiter. Soit t'es pour, soit t'es contre, mais faut te positionner. Oh, faut dire amen à ce qu'ils ont façonné. T'es trop zarbi si tu veux pas tout acheter. Y'a d'autres chemins, mais faut pas les emprunter. Si tu rêves écolo, ça va les emmerder. Faut faire du fric sur le dos des opprimés. Y'a ceux qui réussissent et ceux qui ont tout raté. C'est mieux de vivre à crédit pour bien les engraisser. Faut surtout pas broncher, un mouton, ça ne fait qu'avancer. Mais heureusement, heureusement pour nous, heureusement, ici, ailleurs. Y en a qui vivent pour nous éviter les chaînes, pour qu'on publie les vérités qui gênent, qui prennent des risques pour mieux nous informer, qui jouent à qui tout double pour mieux nous éclairer. Des gens qu'on traque parce qu'ils mettent en danger les empires établis qui veulent nous manœuvrer. Des cadavres entassés, des secrets bien cachés qu'ils sont les seuls à déterrer par la vérité des faits. La presse est muselée, les idées sont truquées. La propagande est un outil qu'ils ont privatisé. Des milliardaires produits du pouvoir militaire nous mettent à terre en diffusant des idées délétères. Faudrait se taire, ne surtout pas broncher. Accepter les pots de vin ou finir en haut du bûcher. Ou finir bâillonné. Quand ça dérange, emprisonné, torturé comme Julian Assange. Le despotisme est à la mode, le monde est en survie. Le journalisme, un job qu'on pratique en sursis. La vérité est un fardeau qui peut coûter la vie. Mais le courage aussi protège des tragédies. Hommage à celles et ceux qui luttent avec la plume pour qu'on puisse avancer, les yeux loin de la brume. Question d'honneur, question d'humanité. Faut pas laisser les peurs voler nos libertés, ok ?
Cette semaine Agora, c'était bien riche, hein, avec d'autres temps forts, des propositions artistiques. Moi, j'ai pu assister au spectacle « Faut-il séparer l'homme de l'artiste ?», mis en scène par Étienne Godillière et Julia Foyce. Public conquis, je crois, Julie.
Alors oui, le public était vraiment très touché, je dirais, que cette proposition soit mise au plateau, avec une scénographie relativement simple, avec des acteurs qui tenaient vraiment le rôle et qui tenaient la scène et qui ont amené à bousculer et à réfléchir, à changer de prisme, à se rendre compte de choses que tout le monde sait mais que on oublie ou qui font passer du quotidien. Et la partie à l'issue du spectacle, il y a eu une rencontre avec ces artistes et les échanges ont été longs, intéressants, posés. Il y a eu une vraie discussion qui a fait que chacun et chacune des gens présents ont changé délicatement ou moins délicatement leur curseur et ont décalé leur point de vue ou en tout cas se sont mis à regarder les choses avec un autre prisme. Et c'est ça aussi le but du spectacle et c'est ça aussi le but de l'art, de réussir à bousculer les conventions et ce qu'on pense et ce qu'on ressent et du coup de l'amener d'une autre manière à réfléchir, à voir les choses autrement.
Ouais, alors moi, perso, j'étais déjà assez au fait de pas mal d'infos qui sont données dans le spectacle. J'ai pas appris grand-chose. Par contre, c'est vrai que la force de la mise en scène, c'est qu'on se prend les informations quand même bien dans la tronche.
Ouais.
et plein de fois, je me suis dit « Waouh !» C'est quand même assez violent, là, ce qui balance. Et, alors, j'ai trouvé ça vraiment... Moi, ça m'a fait du bien aussi. Je me suis dit que parfois, peut-être qu'il faut que les choses soient dites, en fait, de manière très réaliste, très concrète, parce qu'il y a quand même beaucoup de chiffres qui sont donnés. Enfin, dès le départ, hein, on nous demande combien il y a de femmes, combien d'hommes. Et puis, on va revenir sur des statistiques autour des agressions ou des viols des femmes. Et donc là, il va revenir sur le fait que, bah, dans le public, il y a des femmes qui, potentiellement, sont aussi des victimes. Moi, j'ai trouvé que ça, c'était assez violent quand il apporte ça. Il y a un moment, la liste de tous les hommes artistes, politiques, footballeurs qui seraient dans des affaires autour d'agressions sexuelles ou de viols, et ça ne s'arrête pas. Enfin, bon, on en a reparlé hein, de ce moment-là. Oh, tu te souviens, quand il commençait à lire la liste, j'étais impressionnée. Il y a les comptines. On reprend à un moment donné les comptines. On chante l'histoire de Clémentine, la petite mandarine, ou la mandarine là, qui rencontre le garçon citron. Mmh. On la connaît. Cette comptine, on l'a chantée. Les textes de Michel Sardou, de Johnny Hallyday. Enfin, dans cette mise en scène, ça devient hyper concret, en fait, ce qu'on a pu lire, quoi.
Déjà, c'est concret. Et en plus, pour moi, alors là, c'est vraiment mon point de vue, toutes ces informations, elles sont distillées dans les médias depuis des années au milieu d'autres choses. Et là, il les a remis... bout à bout dans un ordre chronologique, parce qu'il faut s'y remettre en contexte. Il y a des propos qui, à l'heure actuelle, ne pourraient peut-être plus passer à certains moments. Mais en tout cas, il les a remis bout à bout. Et du coup, on se rend plus compte de la quantité et de l'impact au fait que ça a pu avoir. Mais comme elles sont ensuite étouffées, parce qu'il y a une autre affaire qui vient reprendre l'autre, on a tendance à ne pas ou pas d'oublier, mais en tout cas à les mettre de côté. Et là, de prendre tous les chiffres et les affaires en pleine face à un moment donné, vraiment simplement en évoquant les faits simplement, et ben ça remet les choses face à soi et face à même nos propres responsabilités. Se dire, mais c'est passé outre, on n'en a pas fait état ou on ne l'écoutait pas de la même manière ou ça passait comme une autre nouvelle. Et du coup, ça met une vraie piqûre de rappel et une vraie piqûre sociétale également, quoi.
Et puis alors, le lendemain, pas la même ambiance à l'Université Lyon 3. Cette fois-ci, on était en compagnie de l'avocate Marie Dauzé. C'était les étudiants de l'association Juristes Jeunes qui échangeaient avec elle. Déjà, un petit retour de votre côté?
Alors, de notre côté, ce qui nous a intéressé dans cette proposition-là, c'est de pouvoir le travailler directement avec les étudiants de licence de droit à l'Université Jean Moulin de Lyon 3, puisque ça nous a paru intéressant que ce soit eux, futurs avocats en devenir, qui aillent et se replonger dans certaines affaires de Marie Dauzé, qui aillent poser aussi leur point de vue sur le droit pénal et qui aillent, depuis leur prisme d'apprenant, se rendre compte de ce qui peut être fait, non fait, etc. Donc d'avoir vraiment leur point de vue et puis de leur laisser la main également, puisqu'ils vont être amenés peut-être un jour à plaider, en tout cas à être face publique. Et c'était intéressant de notre point de vue, en tout cas, de les amener à sortir de leur quotidien d'étudiant et d'avoir une autre posture face à certains apprentissages.
Alors moi, juste le bémol que j'apporte, c'est que justement, il n'y avait peut-être pas assez de contradictions sur ce qu'on a pu entendre. Bon, la première question, j'avoue que je me la suis un peu prise en pleine face. En gros, les médias, le tribunal médiatique, ils sont tous méchants, pourris, ils ne sont pas sympas avec vos clients, Marie Dauzé. Bon, alors, elle a été ravie de cette question parce qu'elle a pu dérouler quand même son argumentaire autour de la présomption d'innocence, qui est intéressant. Hein. Moi, je veux bien volontiers écouter ses arguments. Simplement, bon, on pouvait aussi rétorquer à Marie Dauzé qu'elle utilise quand même, elle aussi, beaucoup les médias pour défendre ses clients. Notamment, elle était sur France Inter en septembre pour défendre Ibrahim Malouf lorsqu'il a été évincé d'un festival. Donc bon, voilà, c'est un peu le reproche que j'aurais fait. C'est que les étudiants, bon, bah voilà, ils sont tout jeunes, ils sont tout frais, ils sont face à une pointure du métier. Donc forcément, c'est impressionnant J'ai trouvé que c'était un petit peu dommage qu'on ne puisse pas entendre un contre-discours.
Ça a été tellement compliqué d'avoir accès à cette personne et de pouvoir le préparer, parce que l'idée initiale était effectivement d'avoir quelqu'un d'autre aussi en face, d'avoir un point de vue, comme dans toutes ces soirées pluri. On n'a pas pu, mais on ne pouvait pas non plus s'empêcher d'avoir accès à une avocate de renom. Ça s'est fait comme ça. Tout le monde, en tout cas, était content de l'exercice, même si, comme toujours, tout est ajustable et tout est améliorable.
Et puis le soir, on enchaînait avec le spectacle « L'art d'avoir toujours raison ». Un petit clin d'œil peut-être à Marie Dosé.
Ouais, bah on y était, Pascal était là, t'étais là aussi, alors dans le public hein, cette fois. Alors c'était une forme assez particulière, je ne sais pas trop si c'est un nom, c'était entre la parodie de formation et une conférence gesticulée, c'est ça un nom en termes scéniques ça
C'est une forme à moitié participative et c'est un spectacle qui évolue en plus à chaque, ouais. À chaque fois. La compagnie Cassandre est assez spécialiste de genre de format où on arrive à avoir un minimum de dérision sur certains éléments et qui amène avec beaucoup d'humour et de... je dirais de pas de délicatesse, mais quelque chose d'assez subtil et avec plusieurs lectures en tout cas, des sujets assez importants. Je sais, personnellement, je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas s'il y a un terme spécifique, mais s'il existe, il serait effectivement approprié à ce genre de proposition en tout cas.
En tout cas, moi, j'ai pas été des plus conquis aussi bien par le fond que par la forme, en fait, parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même certaines banalités qui étaient, voilà. Alors, peut-être que c'est le fait d'être un peu plus avisé, d'être plus au fait du fait politique, de voir passer de nombreuses publications, mais moi, je croyais qu'il n'y avait rien de nouveau, finalement. Et c'est un point tel, en fait, où je suis sorti de là en me disant, mince, mais il y en a qui gobent, en fait, c'est les éléments de langage, hein, qui réussissent à gober ces éléments de langage, quoi. Remplacer un mot par un autre dans un discours, faire des généralisations ou autre, enfin...
Oui, moi, je pense que c'est un spectacle selon notre militantisme politique qui nous parle différemment. Hein. C'est pour ça que tu disais qu'il y avait, Julie, des différentes clés de lecture. Moi, j'ai passé un bon moment. Ça m'a fait penser à des spectacles de théâtre de rue où on est en échange direct avec le public. Moi, j'aime bien ce genre de spectacle où tu es intégré au spectacle. J'ai trouvé ça drôle. J'ai eu un bon fou rire sur la candidate Anne Trotro, j'avoue. voilà, j'ai trouvé ça sympathique, divertissant, mais effectivement, peut-être que ça révolutionne pas ce que tu avais en tête déjà auparavant.
Ouais. Alors, justement, tu dis, alors moi, quelque chose qui me dérange de plus en plus, c'est quand tu as des fous rires, mais exactement en même temps, et que les fous rires sont presque millimétrés. Comme
t'aimes pas rire en même temps que les gens ?
Ouais, c'est quasiment ça en fait.
C'est vrai.
Du coup, tu te dis que si jamais tu rigoles au moment où l'artiste sur scène veut que tu rigoles, mais en fait, tu lui donnes entièrement raison et que du coup, c'était le spectacle, c'était de montrer que les politiques font en sorte que leur parole est toujours la parole universelle. Mais au final, toi, dans le public, et ben tout le monde rigole exactement au même moment.
T'aurais été manipulé par l'artiste.
Ben ouais, il y a ça aussi. Je trouve dans le rire, il y a aussi ce côté-là et qui du coup, ben me dérange quoi. C'est un spectacle contre la manipulation où finalement on se fait manipuler parce que tout le monde doit rire en même temps en balançant des trucs assez évidents. Ouais, Anne Trotro, mais c'est vieux quoi. Enfin,
je la connaissais pas.
Déjà, il y a celle-ci et puis tous les publics ne sont pas aguerris. Moi, je repense également à une autre proposition qui s'est déroulée pendant l'Agora sur les fake news où on a travaillé avec d'autres étudiants. Le rapport aux mots, il est propre à chacun. Et nous, on a une certaine attente d'esthétique, une certaine attente de choses parce qu'on a chacun notre passé. Et en parlant avec les jeunes, je me suis aperçue qu'en fait, c'est pas complètement déconnant de leur montrer ça parce qu'en fait, c'est un prisme qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont plus, auquel ils n'ont pas accès. On commence à être vieux, j'ai envie de dire. Et du coup, on a eu accès à d'autres choses, à d'autres moments, autrement. Et le fait de l'aborder par l'humour, peut-être que c'est une manière en tout cas de sensibiliser et de redire les choses, comme le spectacle de la veille où on reprend un listing, je dirais cru, des choses. Et à l'heure actuelle, C'est un vrai retour. On travaille beaucoup pour préparer donc nos thématiques d'après, dont on parlera plus tard, avec des jeunes. Et on s'aperçoit que le mot est important et la redéfinition de chaque terme est de plus en plus important. Et du coup, on a, enfin, C'était pas. Je trouve qu'en tout cas, d'amener ces éléments-là qui apportent l'idée d'apporter de la réflexion. Et encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est le but du spectacle, en tout cas de mon point de vue, et de l'art en général, de faire réfléchir. En tout cas, j'ai l'impression que l'objectif est atteint.
Oui, c'est clair que dans la salle, c'est clair.
Et puis, il y avait aussi une soirée autour du sport. Alors, c'était hors Agora, mais ça permettait aussi de clôturer ces soirées Regards de l'année 2024. Plusieurs intervenants étaient sur scène. Pascal y était.
La soirée Regard à la scène nationale avait pour thématique le sport comme vecteur de la citoyenneté. Les quatre invités ont abordé, chacun de leur place, les valeurs du sport, notamment la collaboration, le respect des règles, le jeu avec les autres, apprendre à perdre. Ces valeurs véhiculées par le sport permettent aussi le vivre ensemble dans un collectif, un certain art de vivre. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris cet été 2024 sont une aventure qu'a vécue Anne-Laure Arlot en tant que volontaire. Dans la vraie vie, Anne-Laure est professeure des écoles à Bourg-en-Bresse. Nous sommes revenus avec elle sur cette aventure olympique et la citoyenneté du monde qui l'a transportée et qui la transporte encore.
Cette citoyenneté du monde, ce qui m'a frappée et ce que je retiens, c'est les drapeaux en fait, de chaque nation. C'est-à-dire qu'avant... Les drapeaux, pour moi, n'avaient pas vraiment de valeur ou de symbole ou étaient rattachés à une certaine frange de population par rapport au drapeau français, par exemple, qui le brandissent et se mettent derrière pour réclamer une certaine façon, une certaine vision de la société. Et donc là, en fait, je découvrais, en même temps que la cérémonie d'ouverture, tous les drapeaux des nations avancer derrière le même objectif, donc ces Jeux Olympiques. Hein, j'ai cette image, place du Trocadéro, derrière le cavalier, en fait, où, en plus, les drapeaux étaient portés par les volontaires à ce moment-là. Donc, c'était un symbole très fort pour nous, tous les volontaires. Et vraiment, cette citoyenneté du monde, je me suis sentie vraiment reliée à plus que ma nation, en fait. C'est, voilà, c'est peut-être un peu... un peu mièvre ce que je dis, mais je l'ai vraiment senti très fort, cette citoyenneté du monde, et pour moi ça m'a porté pendant très longtemps dans la rencontre aussi avec tous les autres volontaires que j'ai pu faire, des rencontres, j'ai des connaissances dans de nombreux pays du monde maintenant.
Toujours au niveau international, mais dans un contexte professionnel, Fabrice Serrano est préparateur physique à la JL Bourg, directeur de la performance, mais aussi préparateur physique de l'équipe française de basketball. Il a abordé la question de l'impact des conflits internationaux sur des compétitions sportives et la citoyenneté des joueurs professionnels.
L'idée première par rapport à ce contexte-là, c'est en fait de respecter ce qui est donné à plus haut niveau, que ce soit par les politiques, par notre pays et par les fédérations, donc la Fédération française de basket. Et une fois qu'on est sur le terrain, on oublie... Voilà, on joue contre d'autres joueuses, enfin notamment avec l'équipe féminine par exemple, ou avec la JL quand on a joué contre Jérusalem. Voilà, on joue contre 10 autres joueuses ou joueurs qui sont là pour jouer au basket et faire un match de basket. Voilà, le contexte politique, chacun peut penser ce qu'il a envie de penser, mais une fois qu'on a commencé à jouer, on oublie en fait ce qu'il y a autour. C'est le sport qui s'exprime avant tout, et puis aussi les directives entre guillemets d'un club, d'une fédération et d'un gouvernement s'il y a. Donc ça c'est vraiment très très important. Mais il faut jouer et jouer pour le sport.
À un niveau plus individuel, Paul Molina, footballeur freestyleur, dont il nous a fait une petite démonstration impressionnante de virtuosité avec un ballon. Paul Molina a évoqué le passage d'une maîtrise technique à la création d'un spectacle artistique.
Moi, je suis un énorme passionné de freestyle. Et donc, arriver à transmettre ça sur scène, il a fallu travailler d'autres aspects que ma technique pure. Il a fallu que j'apprenne à dire un texte, à l'incarner. Il a fallu que j'apprenne aussi d'autres techniques, des acrobaties, de la danse. Et je me suis rendu compte qu'en étant beaucoup plus complet, j'arrive à faire passer des idées d'une autre manière qu'avec uniquement ma technique de freestyle pure qui était déjà là. Voilà. Mais mon message, ce qu'on essaye de faire passer avec Mouton Noir, c'est vraiment l'idée de choix et l'importance de la passion.
Enfin, Noura Louache de l'association Gymnamix Attitude a abordé le sport par le biais du corps, de la mise en mouvement, occuper l'espace, comme aussi être dans la société, être citoyen.
Et le Tech Ball nous a permis ça, nous a permis de nous amuser autour d'une table, parce que je trouvais que c'est un sport très accessible. Et au-delà de l'aspect compétition, qui ne me concerne pas, mais on a pas mal de jeunes qui sont dedans et qui adorent ça, la gagne. On a aussi cet aspect venir s'éclater, venir transpirer, venir toucher la balle, se dire qu'on l'a mis sur la table, se dire que la personne en face l'a récupérée, se dire qu'on a réussi à faire un smash et puis on rigole, on s'éclate. Et déjà, ouais, c'est le premier aspect. Et bon, à ce qui paraît, il y a des scientifiques qui disent que quand on fait du sport, il y a une certaine hormone qui s'appelle, je sais pas, l'ocytocine, c'est ça? Et du coup, après, c'est une hormone plaisir, c'est une hormone avec laquelle on sent bien. Bah voilà, on veut être des fabricants d'ocytocine. Et d'où le fait que je parle beaucoup du corps. Et le corps aussi, pourquoi? Parce que on sait parler avec le mental, mais on sait pas parler avec son corps. Et moi qui anime pas mal d'ateliers d'éloquence, j'apprends beaucoup grâce à ça. Et il faut savoir que la communication, c'est trois points. C'est le verbal, le paraverbal et le non-verbal. Et le non-verbal, qui est la posture, qui est le corps, qui est la façon de se vêtir, de se tenir, c'est 55% de la communication.
Merci à Pascal pour ces sons. Alors Julie, une soirée regard qui était un peu particulière.
Alors une soirée regard où on a voulu vraiment confronter quatre regards différents face à des expériences. On était plutôt sur un retour d'expérience que sur un sachant qui vient apporter une analyse. Et c'est ce qui nous a plu, c'est ce qui nous plaît dans les soirées regard, c'est de monter des formats différents à chaque fois. Et pour reprendre ce que disait Rémi au début de l'émission, le format une heure est vraiment fait pour qu'on reste sur notre fin et qu'on ait envie ou de continuer à parler avec les intervenants à la suite de l'animation ou plus tard. Et en tout cas, qu'on continue avec les propositions de bibliographie, de films, de podcasts, à réfléchir par soi-même. Donc les prochaines, celles de l'année 25, des prochaines thématiques, vont réserver d'autres surprises.
Et ben justement, en janvier 2025, on repart sur une nouvelle thématique. Cette fois-ci, c'est génération. Alors, c'est quoi l'objectif avec ce thème?
Alors, l'objectif de ce thème, c'est de réussir à... En tout cas, de tenter de créer des dialogues entre les jeunes et les moins jeunes, et les plus jeunes et les encore plus jeunes, avec des propositions de spectacles allant de 3 mois, puisque c'est la première fois qu'on a un spectacle immersif où les bébés et jeunes enfants vont pouvoir aller se blottir au creux d'un décor en écoutant des histoires, sur le spectacle qui s'appelle Émouvoir, et sur d'autres propositions accessibles à toutes et tous, avec beaucoup de travail sur les jeunes et travail avec les jeunes. C'est-à-dire que à partir du mois de janvier, beaucoup de jeunes vont investir les lieux du théâtre et participer à nous aider, que ce soit pour la programmation de l'exposition, pour l'animation de certaines soirées regard, dont une le sera dédiée et ceux qui en prendront les mains, ou pour plein d'autres événements dont on vous reparlera plus tard.
Et à noter que vous recevrez la journaliste Salomé Saquet. Petite promo au passage, son essai « Résister » est en librairie. Hein. C'est une bonne idée cadeau pour ces fêtes de fin d'année. On reprendra tout ça en janvier, tous ensemble. Merci à tous pour cette émission. Merci à Jimmy à la technique. Portez-vous bien, allez voir des spectacles. Et même aux Fraisans, c'est aussi une super idée cadeau.
Regarde.
L'émission qui multiplie les points de vue.
En partenariat avec la Scène nationale de Bourg-en-Bresse.
À écouter sur Radio B.